Les étudiantes et étudiants relais égalité s'invitent dans l'apérophonie.
La libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière.
I will not be lectured about sexism and misogyny by this.
Que l'aborto sea legal, seguro y gratuito.
Des émissions qui parlent de lutte contre les violences et la discrimination à l'université et en dehors sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8, mais également Fréquence Mistral Briançon.
Il y a quelques jours à peine, un événement historique a eu lieu en France, hein, puisque le 4 mars 2024, pour la première fois dans le monde, il y a eu mention de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans un texte fondamental. Donc c'est le sujet dont on va traiter aujourd'hui, l'avortement. Voilà, j'en laisse la parole à Nicolas.
Donc je m'appelle Nicolas, je suis étudiant en légalité, je suis avec Lisa.
Bonjour.
Et les étudiants en légalité, on travaille avec l'université Grenoble-Alpes pour la promotion de l'égalité, la lutte contre toutes les formes de discrimination. En ce moment c'est le mois de l'égalité, donc n'hésitez pas à passer si vous voyez des événements.
Et donc pour réaliser cette émission, on a la chance d'être en présence de Lorraine et Claire. Donc je vais vous laisser vous présenter. Claire, si vous voulez commencer.
Oui, avec plaisir, bonjour. Eh ben, moi je m'appelle Claire Trouvé, je fais partie d'un collectif artistique qui s'appelle le collectif Takamaka. On est basé ici sur Grenoble, on existe depuis un peu plus de 2 ans. Et du coup, on a notamment, parce qu'on a des activités assez variées, mais on a créé un spectacle qui s'appelle Là-dessous, qu'on tourne depuis un peu plus d'un an, et qui du coup aborde la thématique de l'avortement sous le prisme de l'intime, puisqu'on a réalisé des témoignages en fait pour s'inspirer et écrire ce spectacle. Voilà. Et on a eu la chance de le jouer il y a une semaine tout pile à l'Est, donc la programmation de l'ouvre-boîte sur le campus à Grenoble, et on était super contents d'être là.
Et vous, Lorraine ?
Bonjour, moi je suis le docteur Lorraine Besson, je suis médecin généraliste, je suis la directrice du centre de santé sexuelle sur l'université. Et le centre de santé sexuelle, il se trouve dans l'enceinte du centre de santé étudiant à Muse, au premier étage. Et voilà, on réalise beaucoup de consultations gynéco et notamment des IVG.
Merci à vous.
On vous rappelle qu'il est possible de nous appeler ou de nous écrire pendant cette émission. Si vous avez des questions à poser aux invités, vous pouvez nous joindre au 07 77 77 77 42.
Alors, pour commencer cette émission, on s'est dit que ce serait quand même bien de faire un petit point historique, enfin, un point historico-politique plutôt, sur l'IVG. Et donc, pour nous, c'était important de commencer par préciser la différence entre droit et liberté d'accès à l'avortement, puisque donc, comme on l'a dit avant, l'IVG a été mentionné donc dans un nouvel article de la Constitution, mais c'est la liberté garantie d'accès à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse qui a été inscrite. Et donc la vraie différence avec le droit, c'est l'implication, l'engagement de l'État dans cette entreprise. C'est-à-dire que dans un droit, l'État va avoir l'obligation de fournir aux femmes qui souhaitent avorter toutes les infrastructures, tout le matériel, toute la main-d'œuvre également, du coup, via les médecins, nécessaires pour réaliser l'IVG, qu'il soit médicamenteux ou chirurgical en fonction de leur choix. On reviendra sur ces notions aussi. Donc voilà, pour introduire ça, Nicolas.
Oui, d'ailleurs, on peut noter que vous faites la représentation là-dessous, chez les croquignards à la Roche de Rame, le 15 mars à 20h.
Merci pour cette précision, on avait oublié de le mentionner. Alors, petite première question justement pour ce point historico-politique. Est-ce que vous pouvez peut-être, Lorraine notamment, puis Claire bien sûr, nous parler de la situation avant la légalisation de l'avortement en France ? Quels risques il y avait pour les femmes, non seulement qui pratiquaient l'avortement, qui se faisaient avorter, mais aussi celles qu'on appelait les faiseuses d'anges, donc les personnes qui rendaient l'avortement possible pour ces femmes. Donc on rappelle que la loi Veil est passée en 75, donc avant 1975, comment les femmes faisaient pour réaliser des avortements ?
Alors moi je suis pas historienne, je fais des IVG depuis pas très longtemps, par contre il y a quelques ouvrages que j'ai lus, notamment une BD qui est super bien faite, et je sais que les BD c'est plus facile à lire parfois que les gros livres, qui s'appelle Le Manifeste des 343, et effectivement on voit ce qui se passait, c'est-à-dire que vu que c'était pas légalisé, ça se faisait sous cap dans des appartements de faiseuses d'anges qui pouvaient être pas du tout dans le médical, ou parfois des infirmières ou des sages-femmes qui faisaient ça dans l'illégalité. Donc il y avait un risque pour la femme qui pratiquait l'IVG avec un risque de complications ou de décès parce qu'il n'y avait pas vraiment de méthode... c'est sûr, et un risque également pour la personne qui pratiquait l'IVG puisqu'elle était dans l'illégalité.
D'accord, merci. Claire, dans votre spectacle, vous l'avez dit, vous avez réalisé des interviews. Est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être d'échanger avec des personnes qui ont eu recours à l'IVG avant du coup la légalisation de cet exercice?
Alors moi pas directement, après j'ai tout de suite été assez en lien avec le planning familial de Grenoble, qui est le premier planning familial de France, et voilà, dont toute l'équipe m'a apporté beaucoup de soutien, dont vraiment dans la préparation, la documentation aussi de ce spectacle. Ils ont un centre de ressources important dans lequel du coup là j'ai beaucoup lu, oui, de témoignages avant la légalisation. Et sinon, moi, les interviews que j'ai réalisées, il se trouve que du coup c'est tombé plutôt sur des femmes qui ont avorté une fois que c'était déjà légal. Et peut-être moi ce que je peux juste dire par rapport à ça, c'est que globalement, en étant peut-être très très schématique, mais ce qui se dégage, on va dire, des récits, de vécu avant la légalisation, c'est que tout l'enjeu, c'est comment je fais pour avorter. Voilà. Et c'est tout ce qui en découle et les difficultés que les femmes rencontraient à ce moment-là pour faire pratiquer, arriver à avorter. Et une fois que c'est devenu légal, là, y a un truc qui s'est décalé, on va dire, dans le vécu et qui est plus devenu « qu'est-ce que je fais ?». Voilà. Et moi, c'est de ça que j'ai voulu parler dans le spectacle, avec l'idée que ça va bientôt faire 50 ans, finalement, qu'on a le droit d'avorter en France. Et pourtant, il reste un gros tabou, il reste beaucoup de silence. Moi, mes grands-mères sont encore de l'époque où elles ont eu des enfants et... dans un sens, elles n'auraient pas eu le choix légalement de ne pas en avoir, enfin, de ne pas prolonger leur grossesse en tout cas. Et du coup, tout ça est à la fois vieux et tout récent, sûrement assez fragile encore. Les paroles sont pas, les langues ne sont pas complètement encore déliées. Il y a beaucoup de crainte aussi, je crois, de s'exprimer sur des vécus qui sont parfois complexes et peut-être de peur justement qu'on soit pris pour des anti-choix ou que tout ce qui peut être de l'ordre de l'ambiguïté dans l'avortement soit repris et déformé. Voilà.
Encore un long chemin à parcourir pour nous les femmes. Bien justement, on va avoir l'occasion de reparler de votre spectacle. Et avant ça, on voulait vous faire écouter un petit extrait d'une interview que vous avez réalisée. Ça arrive tout de suite.
Je sentais des petits tiraillements dans le ventre, je pensais qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Et je me disais, waouh, c'est juste énorme, c'est juste magnifique, quoi, ce que le corps, la vie, cette chose aussi complexe, et que mon corps est capable de mettre ça en route. Et c'était juste, je trouvais ça génialissime, quoi. Voilà, Et je trouvais ça dommage de mettre, que ce soit pas dans un projet de vie et que j'allais y mettre fin, mais sans culpabilité outre mesure, quoi. Mais j'ai touché ça et avec du recul, comme du coup je serai jamais enceinte jusqu'au bout, je me dis, pour moi ça a été une expérience bénéfique dans le sens où, je sais pas, ça me fait du bien d'avoir senti que j'étais féconde. Mais pas parce que si j'étais stérile, ça serait une tare, voilà, mais parce que je l'ai senti. Enfin, ça me fait du bien de sentir que si j'avais voulu, mon corps, il était capable de donner la vie, qu'il était. Peut-être que ça serait pas allé jusqu'au bout, hein, peut-être que j'aurais fait une grossesse pathologique ou j'en sais rien, mais quelque part, je bénis un peu cet aléa de la vie, parce que du coup, voilà, comme je l'ai pas vécu pleinement, ben, j'ai vécu que ça, et j'en suis quelque part heureuse.
Donc Claire, vous nous l'avez dit, vous présentez le spectacle là-dessous avec le collectif Takamaka. Et justement, est-ce que vous voulez nous faire une rapide présentation de ce spectacle, mais également qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'élaboration ?
Oui. Du coup, oui, comme je l'ai un peu déjà dit, c'est un spectacle qui s'est écrit. Moi, j'avais envie de travailler sur ce sujet. C'est une envie qui est née de façon assez personnelle, mais l'idée étant pas de raconter ma vie, plus de noter qu'il y avait encore beaucoup de silence, voilà, un gros tabou sur ce sujet. Et moi, je ressens un peu ma place d'artiste comme ça, en fait, sur. Une envie, comme mon rôle, c'est un peu, je trouve, d'ouvrir des fenêtres, soit sur le monde, soit sur des imaginaires. Donc là, en l'occurrence, sur ce spectacle là-dessous, c'est plutôt ouvrir une fenêtre un peu sur le monde tel qu'il est, ou qu'il me semble être, en tout cas, aujourd'hui. Et puis, il faut aussi noter que, voilà, moi, je me suis attachée à des témoignages du coup contemporains, plutôt qui se passent ici. Donc dans un pays où on a le droit, comme on disait, d'avorter, la liberté maintenant. Et puis du coup, il y a tout un travail en fait long de réflexion, de discussion, que ce soit des interviews que j'ai réalisées comme ça, avec vraiment le micro posé, quelque chose d'assez formel, ou aussi des discussions en off qui ont beaucoup compté, des gens qui ne voulaient pas forcément se faire enregistrer, mais des fois quand on parle de ce qu'on fait, même au détour d'une rue, il y a une phrase ou deux qui vont avoir une importance énorme sur des choix qui sont faits dans le spectacle. C'est un seul en scène. Ça, c'était un peu une contrainte qu'on avait dans le collectif. Du coup, qui me fait interpréter plein de femmes différentes et même quelques hommes. Et dans toute la diversité de leur vécu.
Voilà. D'où le choix, au final, très pertinent d'interviewer des personnes différentes, avec chacune et chacun, du coup, des personnes, donc chacune des expériences qui leur sont propres, des expériences très, très personnelles, individuelles. Et alors, une autre question que nous on se posait, c'était par rapport au choix artistique. C'est dans un spectacle, donc il y a de la mise en scène, évidemment, avec l'espace scénique dans lequel vous évoluez tout au long du spectacle. Mais il y a aussi le titre là-dessous. Pourquoi ce titre-là ? Il y a toute une tension autour d'un mot qui fait tabou, comme vous le dites, avortement. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer un peu sur justement ces choix dans la réalisation du spectacle ?
Alors le titre, j'ai mis vachement de temps à le trouver. Pendant tout un temps, j'appelais ça 12 semaines. Et typiquement, un jour j'ai croisé une personne, je me souviens, au planning familial. Et en plus, depuis, c'est passé à 14 semaines, le délai légal pour avorter de façon médicamenteuse. Et puis j'ai réalisé à ce moment-là, à travers elle, que ça faisait beaucoup débat, en fait, ces délais, que c'est pas du tout les mêmes dans tous les pays. Et du coup, je me suis dit, ça va pas, parce qu'en fait, mon spectacle est pas autour de ce sujet-là précisément, ou en tout cas uniquement. Et puis, là-dessous, il y a un peu une ambiance océanique, on va dire, qui est un peu un fil conducteur pour nous, et puis juste un paysage, en fait, pour permettre d'exprimer ces récits. Et pour moi, c'était un peu... là-dessous, c'est tout ce qui existe et qu'on ne connaît pas, qu'on ne dit pas, qui est très... comme si on s'imagine bien là, sous l'eau, avec des bruits un peu bizarroïdes qu'on ne reconnaît pas forcément, avec un endroit aussi où la parole ne se propage pas, dans l'eau, quoi. On ne peut pas parler si facilement. Donc c'est, voilà, c'est un peu un symbolisme comme ça. Puis après, il y avait aussi le besoin de faire voyager ses vécus, comment on passe finalement de tous ces personnages d'un vécu à un autre. Et du coup, bah, là, il y a eu un peu une astuce d'imaginer une bouteille jetée à la mer, mais qui, au lieu d'arriver nulle part, elle arrive à quelqu'un qui va y répondre, etc. etc. Donc l'ambiance, voilà, de l'océan, elle répond aussi à ça. Voilà.
Et justement, à travers tous ces choix, vous l'avez dit, vous n'êtes pas forcément concentré que sur la durée légale d'IVG. Pour d'autres messages, et quel serait, si vous aviez un message porté par ce spectacle, quel serait-il ?
Je pense que ce serait principalement le fait de dire que... Enfin, moi, quand j'ai réalisé les interviews, ça m'a marqué à quel point le fait de permettre aux gens de parler, ça leur faisait du bien. Et j'ai l'impression que sur le sujet de l'avortement, on gagne à s'exprimer un peu plus librement, que ça fait du bien à tout le monde, en fait. C'est, je le dis dans le spectacle, c'est à peu près une femme sur trois, et du coup un homme sur trois, qui sont confrontés à une situation d'avortement dans leur vie. En fait, c'est vraiment beaucoup. Donc je pense que si on vit ça, et qu'en tout cas on a besoin d'en parler, il y a de fortes chances pour qu'on rencontre des gens qui ont traversé des choses similaires, ou en tout cas qui peuvent être vraiment empathiques. Et je pense que tout le monde gagnerait dans son vécu à plus partager les choses, parce que tout simplement on se sent moins seul, on se rend compte que voilà, c'est des fois des difficultés, des fois non, mais en tout cas qu'on n'est pas seul, quoi, là-dedans. Et en fait, le tabou encore assez présent, il donne cette impression, en fait, il donne cette impression qu'on est seul à vivre ce qu'on vit. Et je pense que particulièrement sur le sujet de l'avortement, c'est pas vrai, quoi.
Et vous, Lorraine, du coup, vous avez vu le spectacle, et en plus, bah, comme vous nous l'avez dit, vous avez déjà reçu des femmes dans un processus d'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec Claire ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Une petite review du spectacle.
Non, bah, le spectacle, j'ai pas eu la chance de le voir en direct avec l'ambiance des spectateurs, mais je l'ai regardé en replay. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que, en fait, tout ce qui est dit dans le spectacle, c'est des choses qu'on peut retrouver en consultation chez les patientes. Autant parfois des patientes qui peuvent être en difficulté, mais d'autres patientes qui sont contentes de nous trouver. Je pense qu'on évolue aussi au niveau médical. Enfin, les médecins qui pratiquent des IVG, de plus en plus sont sensibilisés aux difficultés que les femmes peuvent connaître dans ces parcours-là. Et donc on est beaucoup, je pense, beaucoup plus empathique qu'à une certaine époque où on va dire que c'était des gynécologues peut-être qui étaient un peu forcés de le faire parce qu'il n'y avait personne d'autre qui le faisait et l'empathie était peut-être moins là. Donc on va dire que la part psychologique dans l'IVG, maintenant, on la considère quand même beaucoup plus, je pense, qu'avant. Et on fait pas, moi par exemple, je fais pas une IVG toute seule, j'ai une équipe avec des conseillères conjugales et familiales, avec des psychologues si besoin, même s'il n'y a pas de besoin sur l'instant présent, on explique que des années plus tard ça peut ressortir, donc faut pas hésiter à en parler. Il y a des groupes de parole qui se montent au planning familial ou ailleurs, mais il y a besoin de libérer cette parole effectivement pour simplifier ou faciliter ou alléger ce parcours pour les femmes.
Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on va avoir l'occasion de, par la suite, de répondre à des questions qui ont été écrites dans une boîte à questions qui était disposée à la fin de votre spectacle, Claire. Avant ça, on va juste faire une petite pause musicale, mais on tenait à vous rappeler qu'il est possible de nous écrire si vous avez des questions à poser aux invités au 07 77 77 77 42. Voilà, on vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve tout de suite.
8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps, une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça.
Mais c'est trop tôt pour ça.
Barbara, vous êtes sûre? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. T'as 20 ans. 20 ans, c'est beau, non? Pourtant, tu sais pas bien. La confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent, eux. Sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel, c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent. Et les larmes dans l'aube, qu'est-ce que tu peux y faire? T'as 26 ans, le ciel bleu rend presque le boulevard joli, presque. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant tu te sens prête, tu t'entends raisonner et puis t'abandonner. Maintenant tu t'écoutes.
Maintenant tu t'écoutes.
Tu sais que t'as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs, de l'amour, du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, respect, baiser, désir.
Sans le savoir, je m'avançais, j'avançais vers ma chère chérie. T'avanceras vers ta chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons. Avançons vers nos chers, chérie. Avançons vers nos chers, guéris. Avançons vers nos chers. Sans le savoir, je m'avançais. J'avançais vers ma chère, chérie. Sans le savoir, tu avanceras. T'avanceras vers cette chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons. Avançons vers nos chers, chérie. Avançons vers nos chers, guéris. Avançons vers nos chers.
Voilà, c'était Cher de Barbara Pravi, pour ceux que ça intéresse.
Donc on va passer aux boîtes aux questions, mais avant cela, on a sélectionné plusieurs questions de définition qui nous semblaient particulièrement importantes. Donc la première, quelle est la différence entre les termes IVG et avortement, et est-ce qu'il y en a une?
Alors je pense que la question est pour moi. Alors le terme IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Après, un avortement, c'est l'interruption, enfin si on va regarder la définition stricte, c'est une interruption de gestation qui soit naturelle, donc soit une fausse couche ou un arrêt spontané de grossesse, maintenant on appelle ça comme ça, ou provoquée. Et là, on a l'interruption volontaire de grossesse ou l'interruption de grossesse pour cause médicale. Donc il y a peut-être une petite différence. Alors on dit souvent, on associe les deux, avortements et IVG, mais un avortement, c'est un arrêt de gestation qui n'est pas forcément volontaire, peut être spontané.
J'avais bien aimé, à l'issue du spectacle, dans la discussion, du coup, il y avait une des conseillères du planning familial qui était là et qui avait dit qu'elle allait... Ils aimaient bien utiliser quand même interruption volontaire de grossesse parce que ça appuie effectivement sur le fait de la volonté et que c'est ce qu'ils essayent de vraiment faire attention, que quand une femme vient avorter, elle le fasse avec toute sa propre volonté. Donc je pense que, voilà, s'il y a peut-être une petite différence, c'est peut-être celle-là, même si l'acte, au final, est le même.
Oui, l'importance de souligner le fait que ce soit une entreprise qui est désirée, hein, qui est choisie, qui vient de soi, au final, cette différence.
Et nous, au niveau médical, on n'utilise pas le terme avortement, on utilise le terme IVG, en fait. Ouais. Donc, on spécifie, c'est une IVG, ou bien c'est un arrêt spontané de grossesse, anciennement fausse couche, mais... On n'utilise pas le terme avortement. Ouais.
D'accord. Autre petite question, également au final un peu plus pour vous Lorraine, c'est vraiment médical, mais est-ce que vous pourriez nous parler des différentes méthodes d'IVG? On l'a mentionné un peu plus tôt, voilà, il y a l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale. Voilà, est-ce qu'on peut clarifier ces termes pour, avant de poursuivre.
Oui, oui. Donc effectivement, vous l'avez bien dit, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser pour réaliser une interruption volontaire de grossesse. La méthode médicamenteuse, qu'on peut utiliser jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Alors 9 semaines d'aménorrhée, c'est des semaines sans règles. Ça équivaut à 7 semaines de grossesse, un peu notre jargon médical, parlant semaine d'aménorrhée. Cette IVG médicamenteuse, en fait, on utilise des médicaments. Un médicament qui arrête la grossesse, un autre médicament qui va permettre l'expulsion qu'on prend 48 heures après le premier. Et ça, ça peut se faire en établissement de santé ou par des professionnels libéraux, et la patiente peut le faire à domicile. Et la deuxième possibilité, c'est une IVG instrumentale ou chirurgicale, ça, c'est la même chose, qu'on peut faire jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée ou 14 semaines de grossesse. Et ça, par contre, ça se fait en établissement de santé. Elle peut être sous anesthésie locale ou générale. Alors maintenant, il y a des endroits où sous anesthésie locale, on peut le faire en centre de santé, en dehors d'un établissement de santé. Mais c'est les prémices. Voilà.
Merci.
Très bien. Donc, on va passer à la boîte aux questions. Donc, avec Lisa, on va tirer au hasard à chaque fois des questions et puis on va vous les poser. Ok. Donc la première question, est-ce que les hommes trans peuvent se faire avorter?
Alors bah, je vais répondre encore à cette question. Bah, oui, en fait, les hommes trans bénéficient du droit à l'IVG, parce que bah, du coup, s'il y a une grossesse dans leur utérus, donc ça veut dire qu'ils ont encore un utérus, donc ils peuvent bénéficier de l'IVG, tout à fait.
Très bien.
Merci. Deuxième question, ça va plutôt également... pour vous deux, parce que vous avez eu l'occasion, Claire, de rencontrer quand même pas mal de personnes qui ont vécu un avortement. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences psychologiques, pas seulement physiques, à long terme, à l'avortement? Par exemple, on parle souvent de baby blues. Est-ce que ça existe pour les femmes qui ont recours à l'avortement? Voilà, en tout cas, tout ce qui est notion de conséquences sur le psyché.
Alors, bah, je commence par répondre. Enfin, ça dépend des femmes, en fait. Ça dépend des femmes, de leur contexte de vie, de la façon dont ça se passe, de la façon dont l'interruption volontaire de grossesse se passe aussi. C'est quand même quelque chose qui n'est pas tout le temps évident. Ça fait poser plein de questions pour les femmes qui ont une IVG. Donc c'est pour ça qu'on est entouré, nous, de professionnels, de psychologues ou de conseillers, ce que je disais tout à l'heure, de conseillères conjugales et familiales qui sont formées à la relation d'aide et qui peuvent accompagner quand il y a besoin. Mais il n'y a pas tout le temps besoin, et notamment pas tout le temps besoin sur l'instant. Parfois, il y a des choses qui se réveillent plus tard, notamment sur d'autres grossesses qui sont menées à terme. Il y a des choses qui se réveillent sur une ancienne IVG, et du coup, il ne faut pas hésiter à pouvoir en parler, ouais.
Ouais, non, ça se recoupe, moi, avec les vécus que j'ai écoutés ou que j'ai lus. Je crois qu'il y a autant de... C'est ça qui est complexe, je crois, avec l'IVG aussi, c'est qu'il y a autant de cas et de situations que non seulement de femmes, mais aussi, enfin, même une femme, si elle avorte plusieurs fois dans sa vie, ce sera pas forcément la même chose à chaque fois, dépendant de sa situation de vie, du moment où ça arrive... voilà.
Merci. Après, il y avait la petite phrase de baby blues. Alors, baby blues, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve plus quand il y a une grossesse menée à terme et avec un nourrisson qui est là. Donc, je ne sais pas trop si, effectivement, est-ce que s'il y a eu IVG, est-ce qu'il y a plus de risques de baby blues? Il n'y a pas forcément, je pense, de lien. C'est peut-être pas, on n'appellerait pas ça un baby blues, mais ça fait peut-être remonter d'autres choses, quoi.
Et peut-être dire, en profiter, parce que Lorraine, tu parlais de concert conjugal et familial, c'est vrai qu'on en a parlé aussi après le spectacle mercredi dernier, juste dire, une concert conjugale et familiale, on peut aller la voir même quand on n'est pas en couple, et même quand on n'a pas d'enfant. Mmh. Et voilà, c'est pour ça qu'elles sont présentes aussi dans ces moments-là de vie, quoi, hein, que c'est surtout des personnes avec qui on peut parler de relations aux autres, de relations à soi. Et voilà, c'est juste, je tenais à le dire parce que je trouve que leur titre décrit pas bien tout ce qu'elles font et à quel point c'est génial d'ailleurs qu'elles soient là.
Merci Claire pour ça, parce que du coup On a beaucoup de difficultés, nous, ici, au centre de santé sexuelle, à exposer, en tout cas, à ce que les étudiants comprennent ce qu'est une conseillère conjugale et familiale et à quoi elle peut servir. C'est vrai que son appellation, pour les étudiants, peut paraître un peu étrange et se dire bah « non, c'est pas pour moi, hein. Conjugale et familiale, j'en suis pas là ». Mais en fait, c'est surtout des personnes qui vont être dans la relation, enfin, dans l'accompagnement ou dans l'aide, tout ce qui est relation affective et sexuelle. Et après, elles orientent vers aussi, elles peuvent orienter vers d'autres professionnels s'il y a besoin, mais elles ont quand même, elles sont formées à une relation d'écoute et d'orientation. Et voilà, on en a bien besoin.
Et puis, pas que sur l'IVG, quoi. C'est, vous êtes dans la lutte contre les discriminations, voilà, sur tout ce qui peut nous concerner finalement à tout âge de la vie, je sais pas moi, orientation sexuelle, de genre, enfin voilà, tout ça c'est aussi des sujets et des personnes auxquelles on peut s'adresser et à qui on peut parler. Il y a ce personnage dans le spectacle qui dit j'aurais bien voulu en parler au fond mais je savais pas avec qui. Ben voilà, on peut parler de tout ça avec une conseillère conjugale et familiale. Je crois que, bon, ici à Grenoble, je pense que les collégiens et les lycéens sont plutôt bien lotis et sûrement les croisent dans leur scolarité. Mais franchement, à chaque fois qu'on parle de ça dans les discussions après les spectacles, j'ai l'impression que personne n'a eu ces fameux cours éducation à la vie intime et sexuelle. Et moi-même, d'ailleurs, je crois que j'en ai jamais eu, en fait, dans ma scolarité, personnellement.
La loi, ça doit être... Je crois c'est chaque année au minimum deux cours.
Oui, c'est deux ou trois.
Deux ou trois. Ouais. Donc ça fait un total de 36 cours sur tout l'enseignement primaire, secondaire, voilà, lycée. Et au final, c'est vrai que moi, aujourd'hui j'ai 22 ans, hein, j'en ai eu deux.
J'ai dû en avoir trois et j'ai 20 ans, donc effectivement.
Donc c'est vrai que les structures, tout ce qui est mis à disposition, que ce soit justement pour les étudiants au centre universitaire, au centre de santé universitaire, évidemment le public est beaucoup plus étudiant, mais c'est une question, que ce soit l'avortement ou d'autres, comme vous l'avez mentionné Claire, le genre, tout ça, qui sont des questions qui ne se limitent absolument pas à des jeunes personnes. C'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours au courant de toutes ces structures d'écoute pour aider les personnes, et donc dans l'avortement, les femmes, ou en tout cas les personnes avec un utérus, à trouver cette oreille attentive dont le personnage du spectacle, par exemple, n'a pas eu la chance d'avoir. Après, il me semble qu'au Centre universitaire de santé, comme vous l'avez dit, Lorraine, il y a toujours cette proposition au moins d'accompagnement psychologique pour les personnes qui viennent se faire avorter.
Oui, ouais, systématiquement, effectivement, on propose. Et puis, parfois, ce n'est pas évident pour les patientes de revoir un autre professionnel, de réexpliquer pourquoi, etc. Elles n'ont pas forcément envie de voir plusieurs personnes, donc parfois je les revois moi aussi. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas conseillère conjugale et familiale, mais... On a de l'empathie et de l'écoute, et puis voilà, on est là pour recevoir un petit peu leurs questionnements et leurs doutes.
Oui, c'est important aussi de pouvoir créer une zone de confort et que ça se fasse dans les meilleures conditions. Bien, merci. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question, et je pense qu'elle vous est adressée à toutes les deux. Donc ce serait, est-ce que vous avez perçu des différences dans les entretiens au cours des différentes années, donc que ça soit dans les termes employés, potentiellement les sentiments qui ont pu peut-être changer, que ça soit sur la honte, qui pourrait être de la culpabilité, ou au contraire plutôt des sensations d'empowerment, de se sentir bien. Voilà, comment est-ce que vous avez vu des différences?
Je commence à répondre, puis non, j'y vais. Moi, je suis jeune sans être très jeune, mais je fais pas d'IVG, je pratique pas des IVG depuis si longtemps que ça. Et du coup, dans ma pratique, en tout cas dans les patientes que je reçois, je vois pas de changement, mais parce que j'en fais que depuis 2000. Alors j'en ai fait un peu en 2011, puis après que depuis 2017 un peu plus fréquemment. Je pense qu'il faut remonter, il aurait fallu qu'il y ait une de mes collègues médecins plus anciennes, on va dire, pour qu'elle puisse répondre à cette question.
Oui, moi, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est le rapport à... avant que ce soit légal, je pense qu'il y a beaucoup plus l'enjeu de comment je fais et maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça implique. Je pense qu'après dans les travaux un peu historiques, c'est sûr qu'il y a différentes phases hein, au niveau de comment on parle l'IVG. Et à côté de ça, au-delà de ça, en fait, comment on parle de contraception, il y a eu des moments où, même pour les besoins, au moment des guerres, bah, on avait besoin de la population, quoi. On avait besoin que les gens fassent des enfants. Alors du coup, ça avait une implication, en fait, sur les discours, quoi. Et au contraire, à des moments plus creux, et ben, là, il y avait finalement plus de propagande, enfin de pub, en fait, pour la contraception. Ouais, je pourrais pas être plus dans le détail que ça, mais c'est vrai que je renvoie aux travaux de Mathilde Larère, qui est une conférencière qui était venue l'an dernier et qui avait retracé un peu les parcours du droit à l'IVG en France sur les différentes années. C'est sûr que les discours ont changé.
Merci beaucoup pour cette recommandation. Donc, il me semble qu'elle a écrit 2 livres sur justement l'histoire de l'avortement en France. Et du rapport à la contraception entre les pouvoirs publics. Justement, Claire, vous parlez de ces discours, soit de promotion, soit plutôt de restriction sur tout ce qui était contraception. Donc, un point important au final.
Et peut-être aussi, pour des recommandations aussi d'expérience, il y a le livre qui est connu maintenant, mais L'événement de Dany Arnaud, qui justement est peut-être un peu plus ancien maintenant. Et montre dans des périodes d'émancipation de la femme, plutôt dans l'université, dans l'accès aux études, justement le sentiment de honte qui pouvait être créé chez ces femmes à qui on disait si vous avez recours à l'avortement, vous allez. Ou justement, qui étaient plus ou moins encouragées. Et en fait, elle montre le paradoxe de, à la fois, on les encourage à le faire pour justement pouvoir continuer d'avoir des études, mais en même temps, tous les hommes qui sont autour d'elle, elle montre comment elle se sent sale auprès d'eux et d'elle, aussi des femmes qui. C'est un tabou, personne ne peut en parler, et du coup c'est intéressant de voir peut-être les évolutions, et dans le spectacle, on voit aussi assez régulièrement, on a des visions aussi à la fois parfois anciennes, mais aussi récentes, et justement, je trouve que c'est une recommandation et c'est un livre qui mérite d'être lu.
Ouais. Peut-être dire aussi, moi là, on a joué dimanche ailleurs, et il y avait des adolescentes, quoi, je pense, lycée, qui... avec tout ce qui se passe en plus en ce moment, on avait l'impression que bon, c'était pas si tabou ça, non, maintenant c'est vachement libéré, la parole et tout. Alors je pense qu'on a un petit phénomène médiatique là en ce moment, et c'est super, tant mieux. Mais je sais pas si c'est hyper représentatif, et je pense qu'encore dans beaucoup de familles, c'est pas si évident d'en parler. Nous, c'est pour ça que le mot, il apparaît quasiment jamais de tout le spectacle. Bon, c'est un peu un moyen qu'on a utilisé aussi pour montrer ce tabou-là. Mais c'était aussi ce que m'avait, dans le partage avec justement l'équipe du planning familial, où elle me disait que, d'une façon générale, les personnes, quand elles viennent pour un IVG, elles ont tendance à jamais dire le mot, à dire « je viens parce que j'ai un petit souci, il m'arrive quelque chose ». Donc toujours quand même, il y a quand même, je pense, ça doit dépendre un peu des contextes familiales, sociales, mais... il reste quand même de la difficulté, quoi, à dire ça simplement. Et c'est vrai que j'imagine, même moi encore, j'imagine mal une discussion avec une amie. « Ah, ça va, t'as fait quoi hier ? Moi, j'ai avorté hier. » Enfin, voilà, ça sortirait pas comme ça, quoi. Mmh. Et c'est normal, d'ailleurs. C'est pas, comme tu disais, Lorraine, c'est pas banal. Mais pour dire juste, peut-être pas forcément dans l'histoire, mais au niveau du présent, qu'est-ce que j'ai pu ressentir ?
En fait, c'est pas banal, mais c'est pas compliqué. Donc, effectivement, vu de l'extérieur, on pourrait dire c'est bon, j'ai en consultation une fois, je prends un médicament, ça arrête la grossesse, le deuxième j'expulse, en 48 heures c'est fait, la vie reprend son cours. Mais il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur au niveau émotionnel, donc c'est pas banal, c'est pas compliqué, mais ça fait bouger beaucoup de choses là-dessous. Ouais.
Moi, ça me fait penser au discours de Simone Veil, justement, quand elle a présenté cette loi, défendu cette loi devant le Parlement, qui dit que qu'une femme qui n'a recours à l'avortement ne le fait de gaieté de cœur, mais et qu'évidemment, il y a énormément de conséquences. Et d'ailleurs, on a pensé au manifeste qui a été le manifeste des 343 femmes qui ont déclaré, c'était en 71, avoir déjà eu recours à l'avortement. Il y a aussi 331 médecins, ça c'était un autre manifeste, qui en ont signé un pour eux dire eux et elles, peut-être eux à cette époque.
Je pense qu'il y avait des médecins. 343, c'était les femmes.
Après, 343, c'est les femmes. Et 331, les médecins, je pense que, c'était oui, majoritairement surtout, des hommes, peut-être, encore à cette époque. Mais ouais, qui avaient donc eux signé pour dire nous avons déjà pratiqué l'IVG sur les femmes qui le souhaitaient. Et donc, il y avait vraiment cette idée déjà à ce moment-là de vouloir briser le tabou et d'enlever ce sentiment de honte et de culpabilité sur les femmes. Voilà, ça me fait penser à ce que vous dites.
Ouais. Là-dessus. Ça a été publié dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Et du coup, ça a été quand même. Ça a ouvert la voie après à la loi Veil, qui a été adoptée en 1975. Mais ouais, c'était un grand courage de ces femmes connues et non connues de sortir de l'ombre, on va dire.
Oui,
merci à elles.
Oui, déjà, merci.
Merci à elles.
Et d'autant que, vu que c'était criminalisé à l'époque, c'était aussi une prise de risque légale de s'exposer à travers un manifeste.
Alors, pour la question suivante, qui s'adresse plutôt... à Claire, alors quelles sont les réactions les plus fréquentes à votre spectacle? Y en a-t-il qui vous ont particulièrement marqué?
Ouais, il y en a plein. j'ai pensé à quelques-unes qui sont vraiment pas exhaustives, mais qui ont été des moments qui m'ont bien touchée. Il y a eu une fois une médecin qui est pourtant déjà bien engagée et pratiquant des avortements, qui m'a dit que ça allait changer sa pratique. Et c'était hyper fort quoi, pour moi d'entendre ça, parce que là, c'est un impact très concret et réel sur la vie des femmes qu'elle va accompagner en fait, à l'issue de mon spectacle. Donc voilà, je pense que pour elle, le fait d'entendre des vécus dans toute leur complexité, peut-être avec plus de temps que ce qu'elle a habituellement, elle se rendait compte de peut-être des fois qu'elle disait, ou au contraire qu'elle ne disait pas certaines choses, et que ce serait sûrement mieux de le faire autrement, voilà. Pour certaines personnes, donc il y a eu ça, il y a eu assez simplement aussi dans les professionnels, une conseillère conjugale et familiale qui m'a dit que ça la rendait fière de faire ce qu'elle faisait. Et pareil, pour moi, c'était un bel hommage, et j'étais moi aussi fière qu'elle ressente ça, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour leur métier. Ensuite, il y a un truc qui revient de temps en temps, c'est qu'on me dit « Et la place des hommes dans tout ça quand même, les hommes ne sont pas très présents dans le spectacle et tout ça. » Et en fait, ils le sont assez. Alors, c'est sûr qu'ils ne sont pas majoritaires, parce que ça correspond aussi aux témoignages que moi, j'ai récoltés, qui étaient plus féminins que masculins. J'ai quand même eu j'ai lu majoritairement des témoignages d'hommes, et qu'il y a un personnage d'homme qui est représenté. Après, ils sont beaucoup évoqués, en fait. J'ai compté, il y en a une dizaine, au final, qui sont présents dans le spectacle, donc c'est pas si peu. Par contre, c'est vrai qu'ils sont représentés d'une façon dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire une façon un peu impuissante, une façon un peu perdue, pas trop savoir quoi faire. Et ça correspond pas... à l'image encore assez actuelle de ce qu'on attend des hommes dans notre société patriarcale, quoi, de virilité, de puissance, de domination, d'assurance, en fait. Voilà. Du coup, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent et qui, pour moi, marque quand même que vraiment on manque de représentation masculine qui soit dans la fragilité. Voilà. Et je trouve ça... Moi, j'ai envie d'hommes fragiles dans le monde. Et par rapport à ça, un peu en lien, il y a un adolescent, là, en janvier, qui m'a dit que, justement, ça lui avait fait du bien, le spectacle, parce qu'il avait vu récemment des spectacles dits féministes où il avait l'impression de pas avoir sa place, quoi, qu'il valait mieux qu'il quitte le public et que tout était de sa faute. Donc ça m'a fait du... J'étais contente, voilà, qu'un jeune homme d'aujourd'hui puisse se sentir investi, impliqué dans toutes ces questions-là. Et puis... je spoil un peu, tant pis. Je spoil un peu un truc du spectacle ou pas?
Oui.
Allez, c'est pas grave. Il y a un des témoignages où une personne raconte que quand elle a vécu son avortement de façon médicamenteuse, elle est dans la douche et puis vraiment il y a un truc assez conséquent quoi, qui sort de son corps.
Ah, oui.
Donc, et elle appelle ça le fameux steak. Et ça, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois dans les témoignages. C'est pour ça que je l'ai mis. Et puis bon, elle le fait de façon tout à fait joviale et c'est comme ça qu'on a essayé de faire passer ce truc un peu cru. Dans le spectacle, c'est un moment où en général ça rit beaucoup, je pense que ça lâche un truc. Souvent on me dit « Ah ouais, ouais, moi aussi j'ai vécu ça » et tout ça. Et pour moi, ça marque aussi à quel point, voilà, pareil, on est très inconscient de ce qui se passe dans notre corps. Je pense qu'on subit aussi des années de mouvements anti-choix qui nous ont fait croire que quand on avortait, on était en train de tuer un enfant et que du coup, il y allait avoir vraiment un fœtus qui allait sortir de notre corps et tout ça, alors qu'en fait, bah, ça reste à ce stade-là un amas de tissus, de cellules et tout ça. Donc c'est l'histoire du steak qui ressort beaucoup, surtout auprès en général des plus jeunes, des lycéennes qui me disent « mais le steak, c'est obligé, tout ça ». Alors je dis « non, c'est pas obligé, ça dépend des femmes, des corps, du moment, de plein de choses ». Mais voilà, après c'est vrai que ça confronte hein, à quelque chose de très concret, très réel, qui est pas évident forcément à gérer. Des fois si, mais des fois non. Et puis peut-être pour finir, un dernier témoignage qui m'a extrêmement touchée, c'était quand on est allé au local des femmes, qui est un lieu d'accueil pour les femmes isolées en situation de précarité. Et il y avait cette dame qui venait, je ne sais pas d'où, elle ne m'a pas dit, mais pas de France à la base, et qui a beaucoup lâché quoi. Après le spectacle. Elle était en plus très pratiquante, croyante, et du coup, je pense qu'elle était tiraillée sur... parce que sa religion, clairement, lui disait que c'était pas top, quoi, d'avorter. Mais en même temps, elle était très ouverte à tout ce qui se passait. Et pour cause, voilà, au bout d'un moment, elle a dit à quel point elle avait perdu des amis à elle, dans son pays, qui avaient voulu... désolé, ça me touche un peu à chaque fois que je pense à ça, mais... Voilà, des femmes qui en sont mortes, en fait, tout simplement, d'avorter dans la clandestinité. Et... voilà, souvent je pense à elle. C'est vrai que je suis super contente de tout ce qui se passe en ce moment pour nous en France. Mais je crois que l'IVG, comme beaucoup d'autres sujets, n'a pas de frontières. Et il faut continuer le combat pour ces femmes-là dans le monde entier, quoi. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui meurent pour vouloir avorter. Voilà.
Bien, on vous remercie.
Ouais, merci beaucoup pour cette réponse très, très riche. Bon, ça me fait penser à la figure du cintre qui revient très très fréquemment, notamment en manifestation, où on le voit sur les réseaux sociaux, quand il y a des posts justement sur l'avortement, sur la légalisation, la question de la légalisation de l'IVG dans des pays du coup autres que la France. Je vois cette pancarte avec un cintre et en dessous écrit « plus jamais ça ». Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Lorraine, hein, quand on parlait un petit peu du petit point historique, il y a beaucoup de risques à avorter clandestinement, des complications médicales qui peuvent être très graves, effectivement, des femmes qui en meurent. C'est très touchant.
Et d'ailleurs, on peut rappeler qu'en termes de chiffres, il n'y a pas forcément d'augmentation ou de réduction du recours à l'IVG avec la légalisation. En revanche, ça réduit presque entièrement, voire totalement, la mortalité des femmes qui la pratiquent. Donc c'est juste une des lois qui permettent de réduire la mortalité.
Oui, parce que de toute façon, il n'y a aucun de moyen contraception qui est sûr à 100%. Donc en fait, à partir de là, des grossesses non désirées, il y en a. Voilà. Et du coup, bah voilà, ça peut pas ne pas exister en fait.
Alors pour la prochaine question, ça revient au final un peu clair sur ce que vous disiez au début, qu'il y avait sur la représentation. Pourquoi il y avait pas autant de représentation, plutôt une si faible représentation des hommes dans votre spectacle. La question étant pourquoi l'avortement est une démarche qui est dans la majorité des cas entreprise par des femmes seules. Donc ça, c'est une question qui s'adresse plutôt à vous deux, j'ai envie de dire. Voilà.
Ouais, femmes seules, leur d'expérience. Parfois, on les voit seules, mais elles sont pas. Elles viennent seules au rendez-vous et encore pas tout le temps. Mais parfois, il y a quand même un compagnon qui est là. Moi, je demande souvent, effectivement, déjà s'il y a un compagnon ou pas. Et si la décision, elle est... s'ils étaient OK, tous les deux, sur décision, s'ils en avaient parlé, quoi. Et bon, quand elles sont en Nougat, quand il y a un compagnon, souvent, ça arrive qu'ils en aient parlé. Enfin, c'est très souvent, la plupart du temps, ils en ont parlé ensemble et ils sont arrivés à une décision ensemble. Donc même si on ne les voit pas sur le devant du tableau, je pense qu'il ne faut pas les oublier parce que même si l'IVG, c'est la femme qui le vit dans son corps, on va dire que toute la part aussi psychologique, l'homme le vit aussi et on a tendance à l'oublier. Comme on les oublie aussi parfois lors d'une grossesse menée à terme en fait. Pour les pères c'est aussi un chamboulement, mais pour un homme qui va être confronté à une IVG, c'est aussi un chamboulement, mais on a tendance un peu à les oublier.
Mmh. Je crois qu'il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que quand on avorte, il faut s'organiser. C'est bête, hein, mais il faut prendre des rendez-vous, tout ça. Enfin, donc, en fonction de ce qu'on fait dans la vie, il faut prendre du temps pour ça. Quand les femmes, en plus, elles ont déjà des enfants. Enfin, ça, il y a toute une organisation à travers ça. Et je pense que, voilà, pour le coup, c'est là qu'on voit que... Je pense qu'on n'en est pas encore au stade où ce serait très admis qu'un homme dise « Désolée, je ne suis pas là aujourd'hui au boulot, je vais au rendez-vous parce que ma femme avorte », des choses comme ça, quoi. Donc ça, il me semble qu'il y a aussi un enjeu un petit peu là-dedans. Et après, sur la présence, moi, c'est vrai que j'ai eu des témoignages des fois où il n'y avait à aucun moment le partenaire en question était mentionné. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu dis, Lorraine, ça joue beaucoup sur la situation de à quel endroit elle arrive, cette grossesse. Et effectivement, dès que ça arrive vraiment dans un couple, en général, il se passe quelque chose. Et des fois, d'ailleurs, qui peut être hyper porteur. Moi, j'ai eu aussi une interview de quelqu'un qui me disait que l'avortement qu'elle avait vécu avec son compagnon, ça les avait amenés vers, en fait, un désir d'enfant. Mais par contre, ils n'avaient aucun regret d'avoir... Et cet avortement, mais voilà, pour dire que ça peut vraiment avoir des conséquences. Et après, c'est vrai que quand ça vient d'une relation qui est plus passagère, plus éphémère, c'est, je pense aussi, tout simplement plus naturel pour les femmes de faire les démarches seules. Et puis que c'est quelque chose de tellement intime, on n'a pas forcément envie de partager ça sur le moment. Peut-être aussi pour se protéger un peu de tout ce qu'on peut, des avis des autres. En fait, voilà, qu'en parler, c'est aussi ça, c'est aussi se confronter à tout ce qu'on va nous dire, de « moi, je pense que tu devrais faire ça », et voilà, c'est déjà un choix tellement difficile, des fois, enfin, voilà, je pense que la clé est sûrement d'en parler aux personnes bien choisies, quoi.
Ou aux professionnels
qui sont professionnels, ou les deux.
Ah ouais. Mais oui, parce que parfois, il y en a qui sont accompagnés effectivement pas par le potentiel père, mais par une amie, par... voilà. Et du coup, il y a quand même parfois un accompagnement autre, même si le père n'est pas là, n'existe pas.
Eh bien, on vous remercie. Justement, la question vous est peut-être plutôt adressée, Lorraine, par rapport au dispositif qui existe. La question ça aurait été vers qui pouvoir s'adresser. Il y a peut-être des lieux en ligne, physiques, et justement, quel type de dispositif?
Oui. Alors, oui, il y a quand même différentes choses qui existent. On va dire que le plus proche d'ici, c'est le centre de santé sexuelle de l'université, qui se trouve dans l'enceinte du centre de santé étudiant au premier étage, et où les femmes ont accès à l'IVG médicamenteuse, hein, pas instrumentale. Voilà. Après, d'autres centres de santé sexuelle aussi dans le bassin proposent un accès à l'IVG. Le planning familial, qui est national, propose aussi. Et donc, il y en a un à Grenoble. Après, on a deux centres d'orthogénie en établissement de santé, au CHU de la Tronche, à la clinique mutualiste. Et après, un téléphone régional qu'on peut appeler, c'est le 0 810 810 714, qui est géré par le Mouvement français du planning familial. Il y a un numéro national aussi, le 0800 08 11 11, pour trouver les professionnels qui peuvent faire des IVG. Et il y a un super site internet qui s'appelle le RPAI, le Réseau Périnatal Alpes-Isère. Et là, il y a toute la liste des professionnels qui pratiquent les IVG, et plein d'infos sur les IVG, les délais, comment ça se pratique, voilà. Et il y a un autre site internet qui s'appelle IVG les adresses, mais j'ai encore regardé cet après-midi, il est peut-être un petit peu moins à jour que le réseau périnatal Alpes-Isère, parce que le site internet IVG les adresses, il est national, il y avait un petit peu moins de... il était un petit peu moins fourni que le RPAI.
Voilà. Et peut-être un petit point briançonnais, vu qu'on est aussi en direct sur Fréquence Mistral à Briançon. De ce côté-là, il y a aussi une conseillère conjugale et familiale voilà, qu'on peut contacter, et qui a la maison du département, maison des solidarités sur Briançon. Pour, je pense, plus aux lycéennes, il y a les infirmières du lycée qui sont au top. Et puis, il y a un planning familial aussi à Gap. Voilà, et peut-être aussi un petit mot plus outil finalement en ligne numérique, mais du coup qui peut aider, je trouve, aussi dans des zones où il y a peut-être moins de choses sur place. C'est une ONG qui s'appelle Safe to Choose, two avec un 2. Et là où on peut chatter en fait directement en ligne avec des conseillères conjugales et familiales dans le monde entier et en plein de langues différentes, parce que du coup je crois qu'elles sont une dizaine de conseillères conjugales et familiales. Du coup, qui parlent, je pense, quasiment toutes les langues et qui, voilà, peuvent très, très vite aussi orienter en fonction de là où on est géographiquement vers des personnes en présentiel.
C'est une superbe initiative. Safe to choose, du coup, sur .fr ou .com ?
Je ne sais plus, mais je pense...
En tout cas, sur Google, vous devriez trouver facilement. Une question, au final, on est deux. Est-ce qu'avoir recours une ou plusieurs fois à l'IVG, ça a un impact sur la fertilité des femmes? Et quelles sont les différences au niveau des conséquences entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale?
Alors, par rapport au risque sur la fertilité, il n'y a pas de risque. On le voit d'ailleurs parce que parfois, bah, on revoit une patiente qui a déjà fait une IVG qui en refait une autre. Donc, ça veut dire que ça marche toujours après. Après, les conséquences entre l'IVG médicamenteuse et chirurgicale, là, on rentre dans le technique. Nous, c'est assez safe, hein, comme autant l'une que l'autre méthode. De plus en plus, c'est beaucoup plus safe que le cintre. donc, il y a très, très peu de conséquences, quoi. Donc, conséquences psychologiques, mais ça, on l'accompagne aussi. Donc, non, faut pas hésiter. Si jamais on freine par rapport au risque sur la fertilité ou qu'on a peur de certaines conséquences corporelles, faut pas hésiter, faut venir nous en parler.
C'est vraiment, je pense, ça, c'est les vestiges des propagandes anti-avortement, hein, faut le dire. Voilà, vous pourrez jamais plus avoir d'enfants. Il va vous arriver des trucs graves et tout ça. Ça vient de là, quoi. Donc tout va bien.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette super intéressante émission.
Merci à vous.
Nicolas, tu veux peut-être rappeler les dates de votre spectacle.
Que votre spectacle là-dessous, chez les Croquignards, à la Roche de Ram, le 15 mars, et ce sera joué à 20h, je crois.
C'est ça, ce vendredi à 20h, le bar ouvre à 19h30.
Allez-y pour écouter le steak.
Ouais, c'est ça.
Et puis n'hésitez pas aussi à vous rendre du coup
au centre de santé étudiant. N'hésitez pas parce qu'on est là. Il y a cet accès pour les étudiants à l'IVG au centre de santé sexuelle. Donc voilà, parfois ça évite de courir à l'hôpital dans une structure un peu qui fait peur. Là, on peut le faire tranquillement à la maison.
On serait super bien accompagné en plus parce que le personnel du CSU est vraiment super. Merci à la technique aussi de Radio Campus qui assure derrière tout ça, derrière cette émission.
Et du coup, merci pour cet entretien.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.